Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
À 2 heures en voiture de Toulouse, au bout d'une route, à flanc des monts de Lacaune, cachée dans l'une des vallées, se trouve Pratelon. Pratelon, un lieu situé dans le diocèse d'Albi, où vit le père Daniel Ange depuis 30 ans, la plupart du temps dans un ermitage. Ancien moine puis ermite, le père Daniel Ange est le fondateur de Jeunesse Lumière, une école internationale d'évangélisation. Pour ce carême, nous avons choisi d'aller interroger ce grand spirituel sur les 3 piliers de ce temps vers Pâques, la prière, le jeûne et l'aumône, mais aussi sur le Tridium Pascal, 4e et dernière émission de cette série. Père Daniel Ange, bonjour.
Bonjour, bonjour. Sainte semaine sainte à chacun et chacune.
Voilà, merci beaucoup de nous recevoir donc pour cette dernière émission donc de cette série de carême. On a eu grand plaisir, je l'espère en tout cas, pour les auditeurs à être avec vous. Je rappelle que nous sommes depuis, si certains n'ont pas écouté les précédentes, depuis Jeunesse Lumière, donc cette école internationale d'évangélisation que vous avez fondée maintenant il y a une 30aine d'années, où des jeunes de France et du monde entier viennent passer un an pour se former dans leur vie chrétienne, apprendre à prier, à vivre en frère et aussi à l'évangéliser. Vous êtes donc ancien moine et ermite et vous vous êtes senti appelé par Dieu à fonder cette école. Et nous sommes donc dans le diocèse d'Albi, dans les monts de la Cône. Et voilà, et il fait frais dans ce lieu sauvage. Alors en cette semaine sainte où nous allons, comme je l'expliquais en introduction, passer le Tridium Pascal à Lourdes cette année. Radio Présence délocalise ses studios depuis Lourdes. Vous avez voulu nous proposer en cette semaine sainte de parcourir cette semaine sainte avec Marie et avec ce défi d'essayer de se mettre à la place, d'accompagner particulièrement les auditeurs qui ne sont pas familiers de ce grand mystère de la vie chrétienne que nous allons vivre pendant ces quelques jours. Alors si on commence tout simplement par le jeudi,
voilà.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe le jeudi saint ?
Alors, je veux dire d'emblée que tous ces événements que nous allons vivre pendant 3-4 jours, c'est une actualisation dans le temps et dans l'espace de tout ce qui a été vécu en Palestine après 2000 ans avec Jésus. Ce n'est pas une commémoration, un souvenir, où on se rappelle un événement historique qui est passé. Il y a une présence, une actualisation à travers ce qu'on appelle la liturgie, la prière de l'Église. Comme Jésus est maintenant dans sa gloire, dans son éternité, il peut rendre présent dans tous les lieux de la terre et toutes les fêtes, les événements liturgiques. Il actualise tout ce qu'il a vécu. Ça fait que nous recevons les mêmes grâces que ceux qui les ont vécues. Et cette année, on va insister spécialement sur Marie, comment elle a vécu la chose. Et donc, c'est vraiment une actualité. Je rentre dans ce mystère inimaginable par lequel Jésus a sauvé et glorifié le monde.
C'est-à-dire qu'on ne vit pas les mêmes événements, mais en même temps, on reçoit les mêmes grâces, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un rappel de la mémoire. Je me rappelle comme un livre d'histoire, voilà. C'est rendu actuel. Et surtout, grâce à ce jeudi soir où Jésus a institué, comme on dit, l'Eucharistie, il a donné son corps, il a donné son sang à ses apôtres.
Alors, racontez peut-être ce qui se passe, c'est-à-dire que Jésus est arrivé le dimanche, voilà, au cri Jésus, de Hosanna, voilà, la foule l'a clamé en espérant qu'il allait sauver Israël, le délivrer des Romains, et après, donc,
lundi, mardi, mercredi, il était sur le mont des Oliviers, passant la nuit avec ses apôtres, mont des Oliviers, son grand discours sur la fin des temps, etc. Et puis arrive le jeudi soir, qui va être son dernier repas de sa vie terrestre et transformé en la première messe de l'histoire. Et déjà, il voyait par avance toutes ces messes qui allaient se célébrer dans toutes les langues du monde, dans tous les peuples de la terre, jusqu'à la fin du monde, dans tous les siècles. C'est la messe prototype, c'est la fondation, c'est la source de l'Eucharistie. Et donc, ces apôtres en sont consacrés comme prêtres. Ça va être les premiers prêtres, vous voyez. Voilà. Et Marie a dû être absolument bouleversée. Marie qui
est-ce
n'a
qu'on,
pas...
Est-ce qu'on sait si elle n'était pas là, Marie, au moment de la Sainte
Seine? Elle n'était pas là à la Seine, mais probablement qu'elle était toute proche, je dirais, dans les coulisses, en train, probablement préparant le repas, etc., le repas pascal. Parce que Jésus s'est inséré dans toute la tradition juive, et donc c'est le repas de Pâques commémorant la délivrance du pays d'Égypte, de l'esclavage, le passage de l'esclavage à la liberté, etc. Et donc Jésus reprend tous ces rites, mais les transforme complètement de l'intérieur. Voilà. Et Marie a dû être bouleversée parce que ce corps, ce sang qu'il remet sous forme de pain et de vin à ses apôtres, c'est le corps et le sang qu'il a reçu de Marie. Jamais il n'aurait pu nous livrer, nous laisser sur terre son corps et son sang, si d'abord il ne les avait pas reçus de Marie lors de sa conception à Nazareth 33 ans plus tôt. Et c'est Marie qui a formé dans son sein ce corps humain, vous voyez, qui va lui permettre de faire l'expérience de toute notre existence, et y compris de toutes nos souffrances et notre mort. Il n'aurait jamais pu partager tout ça avec nous s'il n'y avait pas un corps humain, un vrai corps. C'est pour ça qu'il y a un très beau chant eucharistique remontant au Moyen-Âge. Ave verum corpus natum, je te salue, vrai corps né de la Vierge Marie. Voyez. Et donc en arrière-fond de l'Eucharistie, il y a toujours Marie, bien sûr. Et ça va être le comble de son amour. On ne peut pas aller plus loin dans son amour que d'inventer cette présence physique, parce que son corps et son sang, c'est physique, c'est une communion physique à Jésus, pour qu'il soit présent à travers l'espace et le temps, avant de remonter au ciel. Il emporte à l'ascension, il va emporter notre corps humain dans la gloire, au cœur même de la Trinité, au ciel, mais il nous le laisse sous forme de pain et de vin sur terre. C'est quelque chose de bouleversant, c'est le paroxysme de l'amour. Et le prêtre est celui qui permet à Jésus d'aller jusqu'au bout de son amour. Et là, il y a l'humilité de Dieu, parce que pour qu'il y ait l'Eucharistie, il faut qu'il y ait deux personnes et deux petites choses. Il faut l'Esprit Saint et le prêtre. Le prêtre ne peut rien faire sans l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'au milieu de la messe, il invoque justement ce qu'on appelle l'épiclèse, une invocation de l'Esprit Saint pour que ce pain se vienne. Devienne le petit enfant de Marie ou le Christ ressuscité. Le prêtre ne peut rien faire sans l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint ne peut rien faire sans un petit bonhomme qu'on appelle un prêtre. C'est incroyable. En plus, deux petites choses, le vin et le pain. Et prêtre, Esprit Saint, vin, ça ne marche pas. Pain, vin, Esprit Saint, ça ne marche pas. Il faut les quatre, vous voyez. Et dans les camps de concentration, dans les prisons, je pense spécialement sous le régime soviétique, etc., combien de prêtres ont célébré clandestinement, en cachette, au milieu de la nuit, sur leur rabat, avec comme calice leurs mains. Ils pouvaient trouver un peu de croûtons de pain, ça marchait, mais souvent, ils ne trouvaient pas quelques gouttes de vin. Et je connais un prêtre qui est venu ici témoigner, qui a passé 37 ans en prison en Albanie. Il était dans les camps de travaux forcés et est tombé malade. Et on lui a donné comme médicament, un petit médicament, et il voit écrit dessus 1% de vin. Il a dit, super, enfin je peux dire la messe, j'ai 1% de vin. Alors il verse le vin dans sa main, il prononce ces paroles que Jésus a prononcées la première fois le jeudi au Saint. Jeudi saint au soir, qui se sont répercutés dans le monde entier. Ceci est mon sang. Et voilà, et il boit le sang, il est glorifié, Jésus est en lui, vous voyez. Parce que la communion, c'est une union physique, son sang dans mon sang, sa chair dans ma chair, son corps dans mon corps, mais pour une union spirituelle, pour que son cœur soit dans mon cœur, son esprit dans mon esprit, son âme dans mon âme, vous voyez. Voilà, pour qu'il soit lui en moi. c'est bouleversant, cette affaire.
Et alors, la Vierge Marie au milieu de ça, parce que donc dans l'Évangile, en fait, il n'est pas fait mention de la Vierge Marie,
oui,
mais vous avez l'air de dire
elle
que,
est pas mentionné
comme pour Saint Jean, elle aurait été introduite, parce qu'il y a Saint Jean dans ce passage de la scène, qui
demain,
pose sa
oui.
tête sur son cœur de Jésus au moment de la scène,
oui,
qui est comme
oui.
dans une intimité avec Jésus, mais vous dites que, enfin, vous pensez oui. Dans la foi, ou est-ce que c'est une invention, enfin, comment savoir ce qui est de l'ordre de la supputation, que Marie, en fait, a été introduite à ce mystère d'une certaine manière.
C'est... Oui, bien sûr. D'abord, elle était très préparée, parce que Jésus avait souvent parlé de son corps, sa grande homélie à Capharnaüm, dans la synagogue, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, à la vie éternelle. Marie a entendu tout ça, puisqu'elle fait partie du groupe de saintes femmes qui, parallèlement aux apôtres, si je puis dire, le suivait tout le temps. Elle l'a suivi pendant les 3 ans. Donc elle entend toutes ces catéchèses. Donc elle est toute préparée. Elle comprend du dedans, de l'intérieur.
Donc au moins les apôtres ont dû lui rapporter la Sainte Cène.
Ah,
et Saint Jean particulièrement.
Sûrement. Puis je pense qu'elle était même physiquement avec les saintes femmes très proches dans la pièce d'à côté de la chambre haute. Alors, ça devrait être une immense fête le jeudi saint au soir. Mais comme tout est voilé par la trahison, par l'agonie à Gethsemane, tout de suite après, l'Église...
Alors, rappelez peut-être l'agonie à Gethsemane pour ceux qui ne sont pas familiers.
Oui, alors Gethsemane, c'est ce qu'on appelle le jardin des Oliviers. C'est là où tout de suite après...
Donc en face de Jérusalem, sur la...
Ce dernier repas, c'est dans la vallée du Cédron. Jésus est parti avec ses apôtres et va vivre toutes nos agonies. Il va à ce moment-là traverser toutes nos agonies à nous, voilà, qu'il fait sienne, qu'il consacre, etc. Donc, à cause de cette tristesse du jeudi saint au soir, on ne peut pas trop développer, on ne peut pas faire des grandes processions du Saint-Sacrement joyeuses. C'est pour ça que l'Église a remis à une fête spéciale pour l'Eucharistie, qu'on appelle la fête Dieu, à la fin du temps pascal. Parce que là, il y a tout de même cette immense tristesse. Donc, à la messe solennelle, c'est tout en blanc, évidemment. Et on passe tout de suite au violet, à l'adoration la nuit. Nous, à Jeunesse Lumière, s'il ne pleut pas trop, on va dehors faire un long temps d'adoration dehors. Puis comme il fait souvent un peu froid, on continue à l'intérieur dans une chapelle qui rappelle Gethsemane. On met des branches d'olivier, etc., pour pouvoir le veiller toute la nuit. Parce que durant son agonie, il y a un ange qui vient le consoler. On pense que c'est Saint Michel qui vient le conforter, l'encourager. Et nous, pendant cette sainte nuit, nous voulons être ces petits anges qui consolent Jésus. Il a permis que nous le consolions. Et il y a une très belle icône, donc une image sainte orientale, où on voit dans le jardin des oliviers, plein de petits oiseaux qui chantent, parce que dans le jardin, il nous ouvre déjà le jardin du paradis. Eh bien, on voit d'un côté l'ange qui vient le conforter, et de l'autre, Marie qui a une main sur sa tête, qui pose sa main sur sa tête, et de l'autre main, l'offre à son père. Cette présence mystérieuse de Marie à Gethsemane. Et c'est une immense grâce qu'il nous fait chaque année.
Ce qui n'est pas rapporté dans les évangiles,
la présence
de Marie, puisqu'il n'est qu'avec avec 3 apôtres.
C'est une tradition, parce que l'évangile ne nous dit pas tout, vous voyez, évidemment. On peut pas, il faudrait des volumes et des volumes. Donc on peut imaginer des choses. Et à Gethsemane, on voit qu'il a besoin d'être consolé, rester ici près de moi, il ne veut pas être tout seul, et donc il prend les 3 privilégiés parmi les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, ceux qu'il avait pris sur le mont Tabor, c'est-à-dire la montagne où Jésus, pour l'unique fois de toute sa vie, a manifesté sa gloire. C'était comme les préparer à vivre ce moment où ils vont voir Jésus complètement écrasé par la souffrance, et qui, comme chacun de nous, redoute, il a peur, il a voulu traverser nos propres peurs. Père, éloigne de moi cette coupe, c'est ce que nous disons tous devant une opération chirurgicale difficile, devant un événement très douloureux qui s'annonce, la mort de mon enfant ou de maman, ou, etc. On est tous à dire, mais éloigne de moi cette coupe. Et Jésus a connu cela, c'est ça qui est bouleversant. Il n'a pas vécu sa passion comme ça, en frimant, oh, je suis costaud, je suis le plus fort, je suis au-dessus de tout. tout ça, etc. Il est rentré au-dedans de toutes nos agonies, toutes nos souffrances, toutes nos peurs aussi. C'est tellement émouvant. Et pourtant, il est le roi. C'est pour ça que quand on vient l'arrêter, Judas qui vient l'arrêter avec les soldats, il y a ce moment bouleversant. Qui cherchez-vous ? Il va au-devant. Qui cherchez-vous ? Nous cherchons Jésus de Nazareth. Et Jésus dit, c'est moi. Voilà, il s'avance devant. Il est libre. C'est lui qui a choisi librement d'entrer
dans
sa place.
Et les soldats tombent à la renverse.
Et ils tombent à la renverse parce que c'est la réponse de Dieu à Moïse au désert. C'est le « je suis » de Dieu qui a entendu Moïse. Et comme c'est des Juifs, ces soldats, ils connaissent bien leur Bible, et donc c'est sidérant. C'est comme si Jésus disait « je suis Dieu ». Alors on comprend qu'il tombe à la renverse, vous voyez. Et Jésus a voulu connaître toutes nos trahisons, tous ceux qui nous calomnient, qui nous vendent, qui nous trahissent. Il a voulu être renié par le premier pape, n'est-ce pas, qu'il a renié, Pierre, parce qu'il a voulu connaître du dedans chacun de nous, qui si souvent sont trahis par un ami, sont rejetés, voilà.
Voilà, on va faire une première pause musicale. Merci beaucoup, Père Daniel Ange. Je rappelle que nous sommes donc depuis Pratelon, donc dans les monts de la Caune, dans le diocèse d'Albi. On fait une première pause musicale et puis on parcourra avec vous, et donc avec Marie, le Vendredi Saint.
Présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission Vivante Église ce matin, ce mercredi saint, en veille du prochain tridium pascal, pour cette dernière émission, cette série de carême avec le Père Daniel Ange. Je vous rappelle, si vous nous prenez en cours de route, que le Père Daniel Ange est entre autres donc le fondateur de Jeunesse Lumière, école internationale d'évangélisation située dans le diocèse d'Albi. Alors, dans cette deuxième partie, on va parcourir avec vous le Vendredi Saint, et l'idée que vous nous avez suggérée, c'est donc d'essayer de parcourir ce tridium pascal avec la Vierge Marie. Alors moi, je poserai des questions très simples tout au long de cette émission. La première chose, c'est que peut-être qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit ? C'est-à-dire que Jésus est arrêté, Et après, où est-ce qu'il est, Jésus, pendant la nuit?
Alors, il est emprisonné, donc d'une certaine manière, il rentre dans toutes les prisons du monde, il vient rejoindre les prisonniers. Moi, je parle toujours de ça quand je fais une petite mission dans des prisons. Je dis, ben, Jésus est passé par la prison aussi, voilà. Et alors, la tradition veut qu'il ait été suspendu par les bras dans une sorte de citerne qu'on voit encore aujourd'hui à Jérusalem, où justement, on suspendait les prisonniers en attendant le lever du jour, parce que le tribunal ne peut se réunir qu'après la nuit. Voilà. Donc, il a plusieurs heures, probablement 5-6 heures. Et ce qui est bouleversant, c'est que tout près de là, il y a le pauvre Judas qui se pend par désespoir. Et le péché de Judas, ce n'est pas du tout d'avoir vendu Jésus, parce que Jésus lui aurait pardonné sans problème, avec joie, j'oserais dire. Mais c'est de n'avoir pas cru que même après l'avoir vendu, Jésus pouvait le pardonner, qu'il l'aimait jusque-là. C'est ça, c'est le péché de désespoir. Voilà. Et donc je pense que Jésus, suspendu, priait sans cesse pour son ami Judas. À Gethsemane, il l'appelle mon ami au sens fort du mot, celui que j'aime toujours. Tu es mon ami, tu le demeures, tu le restes, voilà, même si tu m'as trahi.
Donc le vendredi ensuite, après cette nuit, donc, il est présenté donc, au Sanhédrin. Au grand Sanhédrin.
Voilà, alors après, ça va être tout ce récit, tous ces événements de la passion, minute après minute, toutes ces tortures, la flagellation.
Mais il est présenté à Pilate d'abord.
Oui, condamné à mort. Et donc, on pense à tous ces condamnés à mort innocents, encore aujourd'hui, tellement d'innocents condamnés à mort. Jésus a connu tout ça, toutes les tortures. Et je voudrais souligner une chose à propos du film que beaucoup connaissent de Mel Gibson, qui est absolument bouleversant dans son réalisme.
La passion.
La passion. Ce qui aide à le vivre sans qu'on soit traumatisé, c'est justement Marie. Parce que tout le temps, on voit Marie douloureuse, bien sûr, infiniment, mais comme paisible. Voilà. Et il y a ces petits flashbacks sur la vie à Nazareth, et ça aide à vivre ce film. Sinon, on en serait vraiment traumatisé. Et c'est pourtant, ça cherche le réalisme. Alors, avec Marie. Marie, au pied de la croix.
Alors peut-être juste, excusez-moi, avant le pied de la croix, donc quand Jésus est présenté au grand Sanhédrin, puis ensuite à Pilate, on peut imaginer que Marie était où? Est-ce qu'elle était peut-être dans la foule en fait?
Elle était dans la foule, sûrement, probablement, avec Jean, qui est le seul apôtre qui ne s'est pas enfui. Donc Jean a suivi tout ça, et sûrement qu'il est resté tout le temps avec Marie, les deux se soutenant dans cette atroce douleur, voyez.
Donc pareil pendant le chemin de croix, on peut imaginer que Marie suivait de loin en fait Jésus sous le poids de la croix.
Le plus proche possible, j'imagine, le plus proche, dans la mesure où les soldats la laissent approcher. Mais ce qu'il y a de beau, c'est qu'au pied de la croix, ben, ça c'est même une tradition, c'est que la famille proche pouvait s'approcher. Et donc, ils ont laissé Marie, Marie-Madeleine, l'autre Marie, et Jean s'approcher tout près de la croix. Et donc, Marie entend toutes ces dernières paroles de Jésus, c'est cette parole qui va égrener au long de ces 3 heures de grand silence sur la croix. Elle va entendre la première, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », et sûrement que Marie pardonne aussi aux bourreaux qui sont en train de transpercer ses pieds et ses mains. Donc elle rentre dans ce pardon de Jésus. À son tour, elle pardonne. Elle entend son petit qui ouvre le paradis au bon larron. C'est tellement bouleversant. Le gangster qui est le seul qui prend la défense de Jésus, qui se fait l'avocat de Jésus devant toute cette foule en disant « nous sommes coupables ». Mais lui, il n'a rien fait de mal. Il est innocent. Marie a dû être bouleversé que ce soit ce pauvre type à ses côtés qui ose prendre la défense de Jésus devant tous les grands prêtres, les soldats, etc. etc. Elle a dû en pleurer d'émotion et d'amour pour ce gangster qui en devient un saint immédiatement. Il est canonisé, c'est le premier canonisé de l'histoire. Tu seras avec moi dès ce soir. Au paradis. Elle entend Jésus crier sa soif, voilà, j'ai soif d'être aimé, j'ai soif d'amour, etc. Et surtout, vient le moment bouleversant que j'ai évoqué dans une autre émission, où elle entend Jésus crier « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc tout nos « pourquoi » devant le mal, devant la souffrance, devant les horreurs, ne cessons de crier « pourquoi ?» Jésus les a épousés, ils ont traversé son cœur, ses lèvres, il les a lancés vers Dieu. Et à ce moment-là, il ne peut plus dire « papa » comme quelques heures avant, parce qu'il est au fond des âmes, des gens qui ne peuvent pas appeler Dieu Père, parce qu'ils ont trop souffert. Peut-être qu'ils n'ont jamais eu un visage vraiment paternel qui évoque le Père du ciel. Donc il crie « mon Dieu ». Et pourquoi est-ce que juste après, il peut de nouveau dire « Père » C'est parce qu'il vient de dire « Mère » à Marie, qui elle a sa tête, parce que la croix était très basse, la tête contre la poitrine de Jésus. Donc elle peut entendre battre ce cœur dont elle a senti les premières palpitations quand il avait 3 semaines dans son sein. Et au moment où Jésus va naître au ciel, c'est son Noël éternel, la mort c'est naître au ciel, il faut qu'elle soit là comme à sa naissance à Bethléem. Donc elle a sa chair contre la chair de son fils. Peut-être qu'elle essuie aussi cette poitrine couverte de sang et de crachats. Voilà. Et elle entend ses palpitations. Et alors elle peut dire à Jésus, « Non, non, le Père ne t'abandonne pas, parce que moi, ta mère, je ne t'abandonne pas. » Voilà. Et à ce moment-là, Marie devient le sacrement, le signe visible de l'invisible présence de son Père. Et c'est juste après avoir dit le mot « Mère, voici ta mère », que de nouveau, il peut dire « Père ».
Juste,
et
quand puis, il dit « voici ta mère », vous pouvez. Il faut que vous précisiez ça.
Alors voilà, alors, ce qui s'est passé, c'est que au moment où Marie a les yeux rivés sur le visage de son fils, Jésus lui dit, d'une certaine manière, « ne me regarde pas, regarde Jean ». Jean, qui est le plus jeune des apôtres, le seul resté fidèle, et Jésus ose dire « voici ton fils, voici ton enfant, voilà. Tout l'amour que tu me portes, tu vas maintenant le déverser sur Jean. Tu vas me voir dans Jean. » Et pour toute la tradition de l'Église, Jean représente chacun de nous. Chacun de nous est confié à Marie, et Marie nous est confiée. Et c'est une confiance mutuelle. Et à partir de ce moment-là, Marie ne voit plus que Jésus en moi. C'est bouleversant, c'est comme une substitution. Toute sa tendresse pour son fils, elle va le déverser sur chacun de nous. Et Jean, à son tour, va accueillir Marie, va en prendre soin. Jésus confie sa maman, puisqu'il part, il ne pourra plus s'en occuper. Il ne veut pas la laisser veuve toute seule. Et il la confie à Jean. Et donc, la maman de Jésus m'est confiée à moi. Voilà, je peux l'accueillir ou la rejeter, mais Jésus, je la reçois du cœur de Jésus. Et Marie me reçoit du cœur de Jésus. C'est Jésus qui me donne à Marie et qui donne Marie à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est à ce moment-là que Marie devient mère de toute l'Église. Nous célébrons les 500 ans de Luther. Et Luther a un passage admirable où il dit « Marie est la mère de l'Église de tous les temps et de tous les lieux, parce qu'elle est la mère de tous ceux qui sont engendrés dans l'Esprit-Saint. » Voilà, le mot « mère de l'Église », ça a été proclamé pendant le Concile Vatican II officiellement par le pape Paul VI, mais Luther l'avait déjà dit 500 ans avant. Vous voyez, c'est être mère de l'Église. Et à Bethléem, la tradition veut qu'elle n'ait pas souffert les douleurs physiques de l'enfantement, parce qu'elle devait les vivre au pied de la croix. Voilà. Et là, c'est tout de suite le mystère du cœur ouvert. Parce que c'est la seule blessure, donc il y a un soldat qui, d'une sa lance, transperce son cœur pour bien s'assurer qu'il est mort, puisqu'il est mort avant les deux autres. Il est parti pour les accueillir le bon larron au ciel, il est parti le premier. Bon. Et alors, ce transpercement Jésus n'en a pas souffert, il est déjà mort, ça n'a pas fait mal. Mais c'est Marie qui en est bouleversée. J'ai connu une maman dont le fils de 20 ans a été tué dans un accident de voiture, et le fils avait toujours dit, si jamais je meurs dans un accident, je demande à ce qu'on donne mon cœur à un jeune de mon âge qui aurait besoin d'un cœur pour vivre. Et sa maman m'a dit, le plus douloureux de tous ces jours qu'elle a vécu, c'était quand à l'hôpital, elle savait que les chirurgiens ôtaient, arrachaient le cœur au corps de son enfant, ce cœur qu'elle avait formé dans son sein. Et voilà. Et donc ça, c'est la douleur de Marie, c'est la douleur d'enfantement. C'est comme si son cœur se déchirait, comme si son sein maternel s'ouvrait pour mettre au monde l'Église. Voilà, c'est bouleversant, mère de l'Église. Et pour le cœur ouvert, on pourrait rajouter ceci sur le sanctuaire de Turin, c'est-à-dire le linceul, le drap, si on peut dire, qui a enveloppé par devant, par derrière, le corps de Jésus, et qui est conservé précieusement dans la ville de Turin.
Vous avez l'air de dire que comme si on était sûr que c'était le...
Oui, mais c'est évident, c'est absolument évident.
Même si l'Église ne s'est jamais prononcée là-dessus.
Elle se prononce en fête, les papes y vont la vénérer, etc. Il y a une fête liturgique pour la fête, et l'Église a reconnu ça depuis longtemps, vous voyez. Mais c'est les scientifiques qui nous ont permis de décoder tous les détails de la passion. C'est d'abord l'invention de la photo qui a permis, avec toute l'histoire de négatif, positif, etc. Et c'est l'invention de l'atome, c'est dans les laboratoires atomiques qu'on a pu enfin reproduire ce type de... Voilà, comme si c'était réservé à notre temps scientifique. Voilà, et ce sont les grands scientifiques, la NASA, etc., qui nous expliquent. Bon, alors on n'a pas le temps de développer ça, mais c'est pour dire que on voit très bien sur le linceul la tache du sang et de l'eau qui ont jailli de la blessure du côté ouvert. Or, de l'autre côté, entre le bras et la poitrine, on ne voit rien parce que le linge passe directement de la poitrine au bras. Tandis que du côté droit de Jésus, on voit très bien qu'une main, et je pense que c'est la main de Marie, justement, qui l'a ensevelie, elle a appuyé, comme un bandage, appuyé le linge sur ce côté. Ce qui fait que toutes les générations, dans tous les pays du monde, peuvent contempler la trace du côté ouvert. C'est très très net et clair. C'est une des blessures les plus claires sur ce mystérieux linceul. Je pense que c'est Marie qui l'a enseveli, qui a reçu ce corps qu'elle avait formé dans son sein, ce cœur qui s'est mis à battre à la troisième semaine dans son sein. Elle reçoit ce corps tout ensanglanté et l'ensevelit avec le même amour qu'à Bethléem. Et il y a certains artistes qui font le même visage de Marie ensevelissant son petit que son visage accueillant son petit à Bethléem. C'est très beau, voilà, le lien entre la naissance et la naissance au ciel.
Eh ben merci beaucoup Père Daniel, on va faire une deuxième pause musicale et puis on vous retrouve tout de suite après pour parler du samedi saint.
Emmanuel Pella.
Voilà cette émission Vivante Église ce matin, en ce mercredi de la Semaine Sainte, donc avec le Père Daniel Ange, pour la dernière émission de cette série de carême qu'il a eu la gentillesse de faire avec nous, avec pour les auditeurs de Radio Présence. Je rappelle que le Père Daniel Ange, donc, et si par hasard vous ne prenez la série que maintenant, et vous ne seriez toujours pas fondateur, entre autres, donc de l'école Jeunesse Lumière, école d'évangélisation pour des jeunes de France et du monde entier, située dans le diocèse d'Albi. Pour finir cette émission, Père Daniel Ange, pour cette semaine sainte, le samedi saint avec Marie. Alors peut-être pouvez-vous nous décrire ce qui se passe en fait dans le début du samedi saint, c'est-à-dire le vendredi soir, parce qu'en fait le samedi saint il ne se passe pas grand-chose.
Voilà. Alors effectivement, ce grand mystère du samedi saint est très très méconnu, parce qu'il ne se passe rien. Donc il n'y a pas de liturgie, il n'y a pas de messe, c'est le seul jour de l'année où il n'y a aucune messe, je connais l'Eucharistie.
Alors réexpliquez pourquoi peut-être
Même parce que Jésus est au tombeau, il est mort, il n'est plus vivant. Donc pour manifester ça, nos églises sont désertes, le tabernacle est ouvert pour bien montrer qu'il n'est plus là. C'est le seul jour de l'année où il n'y a plus de présence réelle dans les tabernacles et où il y a... où il n'y a pas de messe.
Et ce, sur toute la terre.
Donc c'est très impressionnant. Ça évoque cette espèce de vide, et je dirais de ténèbres et de désespoir, parce qu'il faut se mettre à la place. Et des apôtres, de la toute petite église, tout est fini, tout s'est écroulé. Tout ce qu'on avait espéré en lui, c'est terminé. Et donc tout ce qu'il a dit, ça doit être un menteur, un imposteur, puisqu'il est mort. Voilà, fini. Et il y a un moment... typique, ce sera le soir de Pâques, donc j'anticipe un petit peu, quand Jésus rejoint de ses disciples sur la route qui va au petit village d'Emmaüs. Voilà. Et Jésus vient ressuscité, Jésus vient les rejoindre. Et de quoi est-ce que vous parliez? Et ils ont cette phrase, nous avions espéré en lui. Il raconte d'abord toute la passion, comme si Jésus ne savait pas, mais comme il ne savait pas que c'est Jésus. Voilà. Nous avions espéré, c'est-à-dire l'espérance est morte. Voilà. L'espérance est morte. Voilà. Et donc, c'est tellement actuel, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, de catholiques, sont des hommes et des femmes du samedi saint. Ils aiment bien Jésus, ils lisent l'évangile, Jésus. Mais pour eux, Jésus est un squelette au fond d'un tombeau. Ils sont anachroniques, ils en restent encore au vendredi soir. Ils pensent que Jésus est mort, comme tous les grands hommes, c'est un grand homme de plus. Et la plupart des gens pensent à ça. Beaucoup de gens de bonne volonté, ils aiment bien Jésus, ils l'admirent. Mais voilà, c'est un bon petit philosophe, il a dit des belles petites phrases. Et maintenant, il a rejoint Socrate, Platon et tout. Voilà. Et donc, c'est l'actualité du samedi saint. Je me souviens, un petit garçon de 10 ans, il avait été voir un film sur la passion de Jésus. Et le soir, il sanglote dans son lit. Son papa lui dit, mais pourquoi tu pleures? Eh bien, parce qu'on n'a pas vu dans le film Jésus ressuscité. Alors, papa dit, oui, mais toi, tu sais qu'il est ressuscité. Il n'y a pas de problème, tu le sais. Et l'enfant a ce mot bouleversant. Oui, moi, je sais, mais les autres. Les autres. Il pense à tous ceux, justement, qui ne voient pas ressuscité et qui ne croient pas ressuscité. Donc, les hommes et les femmes du samedi saint, c'est aujourd'hui. Ils sont toujours là. La route d'Emmaüs, voilà, Jésus ne les a pas encore rejoints. Et donc, on vit dans ce désespoir que Jésus est un homme mort.
Donc, le vendredi soir, donc, il est mis au tombeau.
Il est mis au
tombeau. Joseph d'Arimathie, Nicodème. On peut imaginer que la Vierge Marie était là.
Elle est sûrement. Elle
il est mis au tombeau.
À ce moment-là.
Et après, donc.
Donc, elle l'a ensevelie. Bah, et elle est à la place de toutes les mamans qui sont là à ensevelir leur petit enfant ou leur jeune tué dans un accident. Marie a vécu ce deuil effroyable, etc. Mais l'immense différence, c'est que le samedi saint, alors que c'est le désespoir total, les ténèbres totales, Marie, elle, est la seule qui croit dans les paroles de Jésus et qu'il rappelle aux apôtres. Mais rappelez-vous ce qu'il a dit après avoir dit « Le Fils de l'homme sera torturé, crucifié, etc. » Mais je ressusciterai le troisième jour. Rappelez-vous, c'est pas un menteur. Il l'a dit, donc il va le faire. Vous voyez, c'est Marie qui est la seule petite lumière dans ces ténèbres. Hein, toute petite lumière. C'est pour ça que le samedi est un jour traditionnellement consacré à Marie, parce que c'est à cause du samedi saint. Elle est la seule qui veille avec cette certitude.
Alors voilà. Pardon, excusez-moi, je vous arrête, parce que oui. c'est probablement ce que dit la tradition, mais comment vous le savez, en fait?
C'est une évidence. D'abord, où est Marie? Elle est évidemment avec les apôtres. On se serre les coudes, on est tous... Les apôtres sont désespérés. On ne peut pas imaginer que Marie les abandonne. Allez, je retourne à Nazareth, au revoir, bye bye, débrouillez-vous, etc. Elle a un cœur de maman, surtout que Jésus vient de lui confier Jean, et à travers Jean, les autres apôtres. Donc évidemment, elle est là pour les consoler, les réconforter. Ils sont enfermés dans la chambre haute, terrorisés parce qu'ils ont peur d'être...
La chambre haute, c'est donc un lieu à Jérusalem qui est après le lieu du Cénacle.
Voilà, c'est la chambre, la pièce où a eu lieu le don de l'Eucharistie, le dernier repas, et où se vivra beaucoup 50 jours plus tard la Pentecôte. Voilà. Donc c'est là où ailleurs qu'ils sont tous enfermés à double tour, tellement ils sont terrorisés. Voilà. Donc sûrement que Marie et les saintes femmes sont avec elle. Elle est mentionnée avec les saintes femmes pour la venue de l'Esprit-Saint. Donc elle est au moins 50 jours avec eux. Donc c'est évident qu'elle est avec eux. Voilà. Et donc c'est évident aussi qu'elle ne doute pas des promesses de son fils. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle est celle qui nous conforte, nous réconforte dans tous nos moments de désespoir, tous nos moments de doute qui peuvent nous traverser, de doute sur Jésus, etc. Pour ça, beaucoup de personnes qui souffrent, curieusement, mystérieusement, ils découvrent d'abord Marie. Voilà. Et c'est Marie qui les conduit à Jésus. Et alors, il y a un passage du livre de Job.
Rappelez peut-être ce qu'est le livre de Job.
Alors le livre de Job est un des livres de la Bible. Comme vous savez, la Bible est composée de beaucoup de livres différents. Et alors Job est un homme justement qui va être très très éprouvé. Voilà. Tout s'écroule autour de lui. Alors je vous lis quelques phrases dans le chapitre 19. Ça aide à comprendre le mystère du samedi saint. Voilà. Dieu a dressé sur ma route un mur infranchissable, mis des ténèbres sur mes sentiers, il m'a dépouillé de ma gloire, ôté la couronne de ma tête. Il déracine comme un arbre mon espérance. Voilà, ça c'est les apôtres samedi saint. Il a déraciné mon espérance. Voilà. Et il continue. Mes frères, il les a écartés de moi. Mes proches et familiers ont disparu. Je reste tout seul. Les hôtes de ma maison m'ont oublié. Mes servantes me traitent comme un étranger. Si j'appelle mon serviteur, il ne répond pas. Les gamins me témoignent du mépris. Tous mes intimes m'ont en horreur. Mes préférés se sont retournés contre moi. Sous ma peau, ma chair tombe en pourriture. Ma femme ne me supporte plus, etc. Et tout à coup, après ce tableau de désespérance, un espèce de cri qui va traverser les siècles. Mais je sais, moi, et ça c'est Marie, que mon défenseur est vivant, que lui, le dernier, va se lever sur la poussière. Après mon réveil, il me dressera près de lui, et de ma chair, je verrai Dieu. Celui que je verrai sera pour moi, celui que mes yeux regarderont ne sera pas un étranger, et mon cœur en moi brûle d'amour. Voilà, alors c'est très saisissant parce que dans le même chapitre, vous avez toute cette expression de désespoir, Jésus abandonné des siens au fond d'un tombeau, et puis ce cri, voilà, je sais qu'il se réveillera, voilà, qu'il sera la résurrection. Et alors, ça c'est ce qui se passe sur la terre.
Ah juste, excusez-moi, mais en vertu de quoi en fait Marie avait cette espérance? Peut-être faut-il le rappeler, c'est parce que c'était pas... C'était pas une femme comme les autres.
Non, mais c'est parce qu'elle a
c'est la
toujours
foi de l'Église, c'est...
cru dans son fils. Par exemple, pour le premier miracle à Cana, les disciples croient dans sa puissance après avoir vu le miracle. Marie y croit avant. Elle n'a jamais vu de miracle. Pendant 30 ans, elle n'a pas fait un miracle. Le plus grand de tous ces miracles, c'est d'avoir réussi ce tour de force de pendant 30 ans, pas un miracle, alors qu'un seul de ses regards, geste la main, pouvait guérir un paralysé, ressusciter un mort, etc. Et il ne l'a pas fait pendant 30 ans. Donc Marie n'a jamais vu un miracle. Et tout à coup, à Cana, elle sait très bien qu'il en est capable. Et elle donne l'ordre, elle anticipe, voilà, faites tout ce qu'il vous dira. Elle provoque Jésus à faire son point. Donc elle croit avant, donc elle croit, elle sait que son fils... c'est son Dieu, et donc il est capable, etc., de ressusciter. Et d'autant plus qu'il a déjà ressuscité 3 personnes. La petite fille de Jaïr à 12 ans, Lazare 15 jours avant. Donc elle a vu la puissance de son fils. Donc elle sait très bien qu'il va ressusciter. Mais alors, il faut rajouter une chose. Que fait l'âme de Jésus pendant que son corps se repose? Son corps se repose 33 heures à peu près. Comme pour se reposer des 33 heures de sa passion et de ses 33 années à nous sauver. Donc un grand repos pour son corps. Voilà. Mais que fait son âme, puisqu'il a vécu cet arrachement provisoire de l'âme et du corps, comme chacun de nous à la mort, voilà. Où est son âme? Alors là, c'est Saint Pierre, le premier pape, qui nous ouvre le mystère. Il est descendu au Sheol, qu'on appelait les enfers, pas l'enfer au singulier, les enfers, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le purgatoire, le lieu où toutes les personnes qui ont vécu avant lui, tous les saints de la première alliance, depuis Abraham et depuis Adam et Ève, tous ceux qui attendent d'entrer dans le royaume, comme c'est sa résurrection qui nous ouvre le royaume, ils sont en attente. Comme les âmes du purgatoire, voilà, où elles sont purifiées pour entrer justement au ciel. Voilà. Et donc il vient les visiter, il vient briser les portes pour les ouvrir. On voit ça sur beaucoup d'icônes, d'ailleurs en Orient, dans tous les pays à l'Est de l'Europe et tout ça. L'icône de la résurrection, ce n'est pas un Jésus qui sort du tombeau victorieux, c'est Jésus qui descend, qui se penche et qui prend d'une main Adam, de l'autre main Ève, et les arrache à ce que les Juifs appelaient le Sheol, et les fait entrer dans cette plénitude de royaume, de bonheur, de gloire du ciel. Donc le samedi saint est un jour où nous prions pour que le purgatoire soit entièrement vidé ce jour-là, que tous, au matin de Pâques, dans la nuit de Pâques, entrent au ciel, que chaque année, on vide le purgatoire, voilà. Et donc, je me souviens d'un garçon, ça m'a bouleversé, il s'appelait Roland, et j'avais passé la semaine sainte avec lui dans une communauté, et le vendredi saint, il y a un repas très frugal, mais comme il est encore un enfant, on lui donne un peu de fromage et tout ça. Et avec sa fourchette et le bout de fromage, les yeux dans les yeux, il me dit, Daniel Ange, qu'est-ce qui se serait passé si Jésus n'avait pas dit, Père, pardonne-leur? Et moi, je retourne la question, je dis, toi, qu'est-ce que tu réponds? Et il me répond ce mot fulgurant, eh bien, moi, si Jésus n'avait pas dit ça, je n'existerais pas. Le samedi saint, je lui explique l'icône dont je viens de parler. Et il me dit, moi aussi, je veux descendre aux enfers. Je dis, pourquoi? Pour libérer des gens. Bon. Le lundi de Pâques, je le ramène à Aix-en-Provence, à une école pour enfants ayant un peu des difficultés scolaires. Il voit la ville d'Aix-en-Provence et il dit, je veux faire tomber l'Esprit Saint sur cette ville. Tomber, l'expression des actes des apôtres, de la Bible pour la Pentecôte, voilà. Et une semaine après, je suis à Paris pour une session sur le pardon et j'apprends par téléphone que ce garçon a été assassiné par l'homme avec qui vivait sa maman après avoir tué devant lui sa sœur et sa maman. Et il y a une autre petite sœur qui a pu s'échapper et qui a tout raconté. Eh bien, je suis sûr que Jésus le préparait pendant la semaine sainte, justement, a dit, et je suis sûr qu'il a dit intérieurement, « Père, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. » Et quand il m'avait dit « Je veux descendre en enfer », ben il a vécu l'enfer. Il n'y a pas de pire enfer que ce qu'il a vécu. Voilà. Et ça, c'est bouleversant. C'était la semaine sainte où Jésus préparait son âme à vivre cela. Et je suis sûr que c'est lui qui va sauver cet homme et le faire entrer au ciel. Voilà, qui va l'engendrer à sa gloire céleste. Voilà, parce que les petites victimes, en arrivant au ciel, comme la petite Jeanne-Marie Quégelin, petite fille de 10 ans, atrocement torturée et tuée, son frère a dit, en arrivant au ciel, je suis sûr qu'elle a dit, Jésus, je veux cet homme avec moi au ciel. Je veux que, voilà, voilà, nous engendrons. Et donc ce samedi saint, c'est une journée bouleversante. Le problème, c'est qu'on est tellement pris par les préparatifs de la Pâque qu'on oublie tout ce que je viens de dire. Alors terminons justement avec la nuit de Pâques, que nous fêtons très tôt le matin, ici à 4h du matin, eh bien, où le Père vient réveiller son Fils, et Jésus sort du tombeau, première apparition, Marie-Madeleine, pourquoi tu pleures? Il vient consoler cette femme en train de pleurer, qui doit lui rappeler ce qu'elle était au pied de la croix. Et Marie-Madeleine est une femme extraordinaire, parce que vous vous rendez compte, elle a ce courage, cette audace folle, la folie de l'amour, qu'elle sort la nuit, toute seule, une femme, devant faire face à des gardes armés, et sachant très bien qu'elle serait incapable de rouler la pierre. Mais tout de même, elle veut à tout prix, une dernière fois, étreindre, faire des bisous sur ce corps de son bien-aimé. Voilà. Ça, c'est l'amour, mais c'est la folie. Voilà. Et c'est elle qui va réveiller les apôtres, qui va entraîner Pierre et Jean à se précipiter au tombeau. C'est extraordinaire, cette femme. Et c'est à elle, la première, à qui Jésus confie l'annonce de sa résurrection. On va dire à mes frères, je suis ressuscité, etc., etc. Voilà. Et les apôtres vont la prendre pour une folle. T'es bonne pour HP, etc. C'est la douleur qui te fait perdre la tête, etc. Voilà. Et donc, j'ai assumé, on fait tout un sketch la nuit de Pâques, là-dessus, où une des filles de l'école vient réveiller les frères, les entraîner au feu nouveau, un grand feu de camp sur le terrain de foot, etc., qui est le symbole de Jésus ressuscité. Voilà.
Et ben merci infiniment, Père Daniel Ange, de nous avoir accueillis ici à Pratelon, donc depuis cette chapelle orientale, pour toute cette série de carême. Et je ne doute pas que nos auditeurs en ont été profondément touchés et même bouleversés, comme vous le dites souvent. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook.